VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 9 février 2017 en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Mali, arrestation de 2 suspects dans l'enlèvement de la colombienne Gloria Cecilia Argoti.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement tente de désamorcer la dernière mutinerie en date des militaires.
En République démocratique du Congo, l'UDPS pose des conditions au retour de la dépouille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a dénoncé une justice politisée en attaquant les magistrats qui doivent se prononcer sur son décret migratoire.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, suite à l'enlèvement de la colombienne Gloria Cecilia Argoti, 2 suspects ont été arrêtés par la gendarmerie et le chemin emprunté par les 4 assaillants est désormais connu. Précision avec Kassim Traoré.
Depuis l'enlèvement de la sœur Gloria Cecilia Argoti, les éléments de la garde nationale et de la gendarmerie ont intensifié les recherches. C'est ce qui a permis l'arrestation de 2 suspects dans la zone frontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Avec l'aide des populations, les militaires maliens ont pu retrouver les traces des motos qui ont transporté les assaillants avec l'otage. Grâce à des indications, les limiers ont établi les circonstances du rap. C'est ainsi que nous apprenons que la sœur Gloria Cecilia Argoti a été enlevée par un quatuor d'individus qui s'est introduit dans les chambres des religieuses avec des armes à feu et des coupe-coupe. Après s'être présentés comme des djihadistes, les 4 individus ont réclamé le coffre de l'argent et la clé de l'ambulance du centre de santé qu'ils utiliseront pour transporter la religieuse avant de finir leur route à moto. Le mercredi 8 février 2017, le véhicule a été retrouvé par une patrouille à un carrefour de la route nationale du côté de la frontière avec le Burkina Faso. Pour le moment, les recherches impliquent aussi des équipes de la gendarmerie, de la garde nationale et la population. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le gouvernement ivoirien tente de désamorcer une mutinerie de militaires des forces spéciales. Ce dernier épisode d'une série d'enlèvements, ou plutôt de soulèvements dans l'armée, fait craindre un retour de l'instabilité dans le pays. Eric Manirakiza.
Le gouvernement condamne et déplore ces formes violentes de revendication, a déclaré hier le ministre de la Communication Bruno Koné à l'issue du Conseil des ministres. Un convoi de mutins a quitté Adiaké pour Abidjan en vue de rencontrer le ministre de la Défense, Alain Richard Donwahi. Les forces spéciales, unités d'élite chargées de la sécurité rapprochée du président Alassane Ouattara, ont déclenché un soulèvement pour réclamer des primes. À Diaké, l'entrée de la petite ville côtière était toujours contrôlée par les mutins, dont la plupart portaient des cagoules. Ce coup de colère intervient près d'un mois après une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée. Certains soldats ont déjà perçu 12 millions de francs CFA chacun. Monsieur Ouattara a donc ouvert la boîte de Pandore. À tour de rôle, des corps en uniforme utilisent les armes pour réclamer leur part et l'affaire est loin d'être terminée.
En République démocratique du Congo, avertissement de l'UDPS. Pas de retour du corps d'Étienne Tshisekedi avant le prochain gouvernement de large union nationale. Lors d'un point de presse tenu mercredi à Kinshasa, le secrétaire général Jean-Marc Kaboun a décliné l'offre du gouvernement de prendre en charge les obsèques de M. Tshisekedi et de payer des billets aux membres de la famille et de l'UDPS qui doivent se rendre à Bruxelles pour aller chercher la dépouille de M. Tshisekedi et la ramener à Kinshasa. On écoute M. Kaboun au micro de Walter Nkoui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce sont les familles biologiques et politiques du défunt qui coordonnent valablement toutes les cérémonies irrelatives. Les autres partenaires ne viennent qu'en appui. Ainsi, l'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Ipso facto, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre des titres de voyage faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutile. L'UDPS précise que les dates du rapatriement et de l'enterrement de notre héros ne seront connues que si est-ce éléments-ci de préalables ci-dessous rencontrent des solutions. La fixation du lieu et de la forme de l'enterrement. L'érection d'un mausolée au centre-ville de Kinshasa où sera gardé pour l'éternité les corps du père de la démocratie. 2. La prise en charge de tous les frais liés aux obsèques par l'État congolais à travers le gouvernement de large union nationale en vue.
Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS, propos recueillis par Walter Nkui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. En seconde partie de cette édition, vous pourrez entendre le porte-parole gouvernemental Lambert Mende sur cette controverse.
Le président sud-africain Jacob Zuma, sous le feu continu des critiques de l'opposition, va prononcer aujourd'hui son discours annuel à la nation devant le Parlement au Cap. C'est par un communiqué laconique que la présidence sud-africaine a annoncé hier soir le déploiement de 441 soldats pour maintenir la loi et l'ordre autour du Parlement en marge du discours du chef de l'État. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, s'est immédiatement offusqué de cette décision, parlant d'une violation de la Constitution.
En Gambie, le nouveau ministre de la Justice a annoncé une révision de la Constitution en vue d'éliminer les lois restrictives sur les médias. Aboubacar Tambadou a précisé que certaines réformes sont des priorités, particulièrement dans le secteur de la justice criminelle et des lois sur les médias. La Gambie, sous l'ex-président Yahya Jammeh, était critiquée pour ses atteintes répétées aux droits de l'homme. Les journalistes étaient régulièrement harcelés et poursuivis en justice.
L'ancien premier ministre somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu mercredi président de son pays à l'issue d'un vote des parlementaires et il a promis de lutter contre deux fléaux gangrénant la Somalie, la corruption et les combattants islamistes Shebab.
Au Nigeria, les compagnies aériennes internationales refusent d'emprunter l'itinéraire alternatif qui sera mis en place pendant la fermeture du seul aéroport desservant Abuja, la capitale, en mars. Les précisions de John Lyndon.
L'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja va fermer complètement ses portes à partir du 8 mars pour permettre la réparation de la piste d'atterrissage. Les vols intérieurs et internationaux seront détournés vers Kaduna, à 170 km au nord. Selon le secrétaire d'État à l'aviation, Adi Sirika, les travaux vont durer 6 semaines pour réparer la piste construite en 1982 et prévue pour une durée de vie de 20 ans. Pour Sirika, cette piste est maintenant défaillante et dangereuse. Les médias locaux rapportent d'énormes nids de poules sur le tarmac. Lufthansa, Air France et South African Airways ont déjà déclaré qu'elles ne détourneraient pas leurs vols venant de Francfort, Paris et Johannesburg vers Kaduna. British Airways et Turkish Airlines n'ont pas encore annoncé leur décision, mais ont toutes deux suspendu les ventes de billets à destination d'Abuja durant la période de fermeture.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a dénoncé ce qu'il a appelé une justice politisée et il a accusé les magistrats qui doivent se prononcer sur son décret migratoire, actuellement suspendu. Il les a accusés de mettre en péril la sécurité des États-Unis. Le sort de cette mesure anti-immigration, la plus emblématique et controversée de la présidence Trump, en place depuis moins de 3 semaines, est entre les mains de 3 magistrats d'une cour d'appel de San Francisco. Ils doivent rendre un arrêt très attendu d'ici la fin de la semaine. À noter que le haut magistrat Neil Gorsuch, nommé le 31 janvier par Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis, a estimé décourageante et démoralisante les récentes critiques du président Trump contre les juges traitant des recours contre son décret.
Le sénateur de l'Alabama, Jeff Sessions, a été confirmé mercredi par le Sénat américain au poste de ministre de la Justice de Donald Trump, dont il a largement inspiré la politique anti-immigration. Les sénateurs ont voté par 52 voix contre 47 en faveur de ce fidèle du président Trump. La quasi-totalité du groupe démocrate vote en non. La majorité républicaine a fait bloc autour de sa nomination qui avait été annoncée le 18 novembre.
La ville de Los Angeles va payer 1,5 million de dollars à la famille d'un jeune homme noir tué par la police en 2014, ce qui avait déclenché de vives dénonciations des violences policières et des manifestations. Le conseil municipal de Los Angeles a approuvé hier, lors d'un vote, le versement de ce montant pour mettre fin à une plainte de la fille d'Ezel Ford deux semaines après que la procureure du district de Los Angeles eut annoncé qu'elle n'engagerait pas de poursuite pénale contre les deux officiers qui ont abattu le jeune homme en août 2014.
Deux Palestiniens ont été tués et cinq blessés dans la nuit de mercredi à jeudi après un accès de tension près de la frontière entre l'Égypte et Israël, a indiqué le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas palestinien. Le ministère gazaoui de la Santé a incriminé une frappe aérienne israélienne qui aurait fait suite au tir de plusieurs roquettes mercredi soir à partir du Sinaï en Égypte vers la station balnéaire israélienne d'Eilat sur la mer Rouge. L'armée israélienne n'avait cependant pas confirmé tout jeudi avoir mené des frappes.
La Maison-Blanche a vigoureusement rejeté mercredi toute critique contre le raid mené il y a 10 jours au Yémen, qui a fait plusieurs victimes civiles, jugeant que ce serait une insulte faite aux soldats américains morts dans l'opération. Le raid au Yémen fut un immense succès, a lancé Sean Spicer, porte-parole du président Trump. Des vies américaines seront sauvées grâce à lui, des attaques seront évitées. Toute suggestion contraire reviendrait à dénigrer les actes courageux du soldat décédé. Point barre.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Le marché pétrolier réagit bien à la réduction de l'offre de la part des principaux producteurs. Et c'est ce qu'annonce l'OPEP. Deux accords de limitation de l'offre conclus par l'OPEP, l'un en son sein, l'autre avec ses partenaires dont la Russie, sont entrés en vigueur le 1er janvier. Ces accords portent sur une baisse de l'offre de quelque 1,8 million de barils par jour. À noter que les cours du pétrole poursuivaient leur chute hier en Asie, en raison notamment d'une nette hausse estimée et des réserves américaines de brut. Les bonnes récoltes font plonger le cacao. Avec d'excellentes prévisions de production, mais une consommation en berne, l'or brun a vu son cours dégringoler de 25%. C'est ce que rapporte Jeune Afrique. Une très mauvaise nouvelle pour les pays producteurs. En 2016, le cacao fut l'une des rares matières premières agricoles dont le cours s'était bien maintenu.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les Lions indomptables, encore à l'honneur, au Cameroun.
Ah oui, le président camerounais Paul Biya qui a salué hier à Yaoundé le talent des joueurs de l'équipe nationale. Les Lions indomptables vainqueurs dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était au Gabon. Après la réception au palais présidentiel, les Lions indomptables ont effectué une parade triomphale dans les rues de Yaoundé à bord de voitures de police. La foule s'était massée pour acclamer les vainqueurs menés par leur capitaine Benjamin Moukandjo qui tenait le trophée à la main.
Le Barça en finale de la Coupe du Roi en Espagne.
Oui, c'était mardi soir. Malmené, le FC Barcelone a profité de l'incroyable maladresse de l'Atlético Madrid. Un match nul, un but partout, qui suffit lors de cette demi-finale retour de la Coupe du Roi. En effet, les Barcelonais l'avaient emporté 2-1 à l'aller. Le Barça défiera fin mai le vainqueur de l'autre demi-finale retour qui a eu lieu hier soir. Elle opposait Alavés au Celta Vigo. Et Idrissa, le vainqueur s'appelle...
Eh bien, c'est Alavés 1-0. Championnat d'Italie maintenant, la Juventus en forme.
La Juventus de Turin a comme prévu battu Cotrone 2-0 hier en match en retard de la 18e journée de la Serie A et compte désormais un avantage confortable de 7 points sur l'AS Rome et 9 points sur Naples.
Mauvaise nouvelle en NBA pour le joueur camerounais de Philadelphie.
Oui, le pivot Joel Embiid, qui n'a joué qu'un match en 3 semaines, ne participera pas aux deux prochaines rencontres des Sixers. Embiid s'est toutefois entraîné mardi malgré sa blessure au genou gauche. Embiid, on le rappelle, a fait ses débuts en NBA en octobre dernier. Il fait figure à 22 ans de l'une des révélations de la saison avec des moyennes de 20 points et près de 8 rebonds par match. Allez Idrissa, les résultats de la soirée, toujours avec vous, la NBA.
San Antonio, Philadelphia, 111-103. Cleveland, Indiana, 132-117. Washington, Brooklyn Nets, 114-110. Denver, Atlanta, 106-117. LA Lakers Detroit 102-121, Miami Milwaukee 106-88, Phoenix Memphis 91-110, Utah New Orleans 127-94, Toronto Minnesota 109-112, LA Clippers New York Knicks 119-115. Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une des branches armées du mouvement indépendantiste Casamance, au sud, dans le sud du Sénégal, appelle à un règlement pacifique et définitif de la crise qui dure depuis plus de 30 ans. Dans un communiqué récemment rendu public, le groupe appelle néanmoins à une réunification du mouvement indépendantiste divisé depuis la mort de son leader, l'abbé Diamakoun Senghor. Le journaliste et spécialiste de la Casamance, Ibrahima Gassama, nous parle d'abord de la branche Diakha qui vient de lancer cet appel aux négociations.
Il faut dire que Diakha est une branche de l'aile sud du MFDC, mais d'abord c'était l'ancien front nord, puisque au début de la rébellion, le tout était concentré au sud avec la frontière avec la Guinée-Bissau. Et c'est en 92, à l'issue de négociations avec le gouvernement, que des accords ont été trouvés et que ce front a été délocalisé et s'est installé dans cette partie. Diverses activités étaient financées, économiques, particulièrement par l'ancien régime, sous Diouf. Et il y avait une espèce justement que l'on exploitait qui s'appelait Diakha et le nom est resté.
Alors cette faction de Diakha estime qu'il faut une réunification des différentes factions du MFDC pour parvenir à des accords de paix. Pourquoi cette réunification est importante ?
Parce que le MFDC est divisé et cela depuis la disparition du leader charismatique de ce mouvement qui est l'abbé Augustin Diamakoun Senghor. Alors depuis sa disparition, il y a eu des querelles de leadership, autant dans l'aile politique civile avec le poste de secrétaire général. Ensuite, l'aile militaire qui s'est éclatée en plusieurs parties. Et aujourd'hui, c'est lui, Salif Sadio, qui négocie avec l'État du Sénégal. Et cette ouverture vers l'État de Salif Sadio a créé des problèmes au sein des autres factions du MFDC qui estiment que Salif Sadio ne peut pas parler en leur nom. Ils font un MFDC uni qui ira donc avec un seul interlocuteur rencontrer l'État. C'est un peu cela le blocage.
Alors le gouvernement sénégalais n'a pas encore officiellement réagi, mais quelle devrait être sa posture ?
Oui, mais d'abord par rapport à ce communiqué, moi je pense que le discours n'est pas nouveau, puisque je l'ai dit depuis 92, cette aile a été pacifiée. Aujourd'hui je pense que l'aile dure du MFDC, le noyau dur, il faut surtout aller vers Salif Sadio, César Badiat et Ibrahima Kompas Diatta. Je crois que ce sont ces factions aujourd'hui qui pèse lourd, hein. Le mot n'est pas de trop sur la balance du processus de résolution de cette crise, mais la zone des palmiers a longtemps été une zone pacifiée où des armes ont été déposées, où même les combattants étaient pour certains dans des familles et menaient des activités quotidiennes.
C'était le journaliste Ibrahima Gassama qui nous parlait de l'appel de la branche Diakha en Casamance. Il répondait aux questions d'Abdourahmane Dia.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
De nouveaux déplacés à l'aéroport international de Bangui, les récentes violences dans le quartier du PK5 ont poussé de nombreuses familles à regagner ce site fermé il y a quelques jours. Pourtant, de nombreuses personnes déplacées avaient regagné leur quartier suite à l'opération Noël à la maison initiée par le gouvernement. Reportage de Freeman Sipila.
Vidé de ses occupants par le gouvernement, le site de Poco accueille de nouveau depuis hier soir des retournés. Plusieurs familles, hommes, femmes et enfants, ont regagné leur ancien lieu de refuge avec tout ce qu'ils ont pu sortir de leur maison. Cette femme, ses trois enfants et ses petits-fils se sont installés sous un manguier car les autorités interdisent la construction de nouvelles huttes.
Le gouvernement, il doit trouver une solution pour nous. Parce que maintenant qu'on dort comment ? On ne sait pas comment on dort avec les enfants, tout là. Il faut que le gouvernement se fasse d'un effort pour libérer le quartier.
Vous avez perdu vos biens ?
Tout. Même les lits là. même les habits. Je n'ai pas sorti une seule chose, même pas un point, tout est perdu.
Nombreux sont encore favorables à un retour volontaire dans leur quartier, mais à une seule condition, le désarmement des groupes armés.
C'était la gendarmerie qui a fait son travail, mais maintenant, les hommes armés, ils sont venus, ils ont commencé à tirer, ils ont brûlé nos maisons. Qu'on désarme ceux qui ont, on désarme la République centrafricaine en général.
Cette situation constitue une nouvelle épine dans les pieds du gouvernement. Le ministre de la Sécurité et celle des Affaires sociales étaient dans la matinée à la rencontre de ces personnes. Jean-Serge Bokassa appelle au calme et annonce des mesures pour sécuriser le PK5.
Tout simplement, on appelle au calme. On pense qu'il est important que les populations comprennent le rôle que joue l'État au travers de ses différents services. Le rétablissement de l'ordre, le maintien de l'ordre. Et pour l'heure, je ne voudrais pas apporter beaucoup de commentaires, mais simplement rappeler toutes les communautés au calme. D'appeler la population en général au calme et au soutien de l'action de nos forces de sécurité intérieure.
Pour empêcher la construction de nouvelles huttes sur ce site, la police et la gendarmerie sont déployées sur les lieux. La mort d'un influent chef d'une bande armée du PK5 dénommé Big Man, tué mardi au cours d'une opération conjointe force de sécurité centrafricaine MINUSCA, a entraîné des représailles. Le bilan provisoire fait état de près d'une dizaine de morts, dont un pasteur. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En première partie, vous avez entendu le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, dire « Pas de retour du corps d'Étienne Tshisekedi avant le prochain gouvernement de large Union nationale. Il a également décliné l'offre du gouvernement de prendre en charge les obsèques de l'opposant historique. Lamer Mende, porte-parole du gouvernement, a exprimé son désaccord avec ces conditions de l'opposition en discutant avec Nicolas Pinault de l'offre de prise en charge des obsèques.
Le gouvernement, sur instruction du président de la République, a décidé que le trésor public couvrira la totalité des charges relatives aux obsèques de M. Tshisekedi, parce que tel est le protocole dans notre pays pour les anciens premiers ministres. Et donc nous avons mis en place un comité d'organisation sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et nous avons accepté de prendre en charge les billets d'avion pour la famille et les membres de son parti qui vont aller en Belgique pour revenir avec le corps du défunt. Nous avons retenu le Palais du Peuple comme lieu de recueillement et des hommages publics et des hommages populaires. Et nous avons chargé le gouverneur de la ville de Kinshasa de convenir avec la famille politique du lieu d'enterrement de M. Tshisekedi et des aménagements qu'il faudra faire pour ce lieu d'inhumation.
Quelle est aujourd'hui votre réaction quand vous entendez les gens de l'UDPS réclamer notamment la publication d'un nouveau gouvernement, l'application de l'accord du 31 décembre, avant tout rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi?
C'est un mélange de genres. D'abord, ils ne nous ont pas saisi officiellement. C'est une déclaration dans les médias. Nous avons été avec le secrétaire général adjoint de l'UDPS lors de cette réunion avec la famille de M. Tshisekedi, représentée par son frère cadet, l'évêque de Moïka, Monseigneur Moulumba. Et donc, nous ne traitons pas avec l'UDPS par communiqué de presse interposé. Nous n'avons pas encore reçu cette communication. On peut supposer qu'il s'agit d'un problème de querelle interne à ce parti. Et donc, nous n'avons aucune réaction. Jusque-là, c'est tout de même assez irresponsable pour nous qui sommes africains, nous qui sommes bantous, que pendant un deuil, on puisse soulever des problèmes politiques. Nous n'avons pas discuté des questions politiques lors de ce débat. Et de toute façon, même les évêques nous ont demandé de suspendre toutes les discussions et de ne les reprendre qu'après l'enterrement de M. Tshisekedi. Ce qui nous paraît tout à fait conforme à nos traditions et à la défense même.
C'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Toujours en RDC, revenons sur les inondations qui ont fait mardi au moins 4 morts et de nombreux dégâts matériels après des pluies diluviennes à Kinshasa. La rivière Kamalou, qui traverse la capitale de la RDC, est sortie de son lit et suite aux nombreux problèmes de canalisation d'eau dont souffre la ville, toutes les avenues étaient inondées. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les eaux des ruissellements et des pluies ont inondé les avenues du quartier. Marie-Josée Bakongo, qui habite ce quartier depuis plus de 60 ans, évoque la baisse du pont Bongolo qui ne permet plus aux eaux de suivre leur lit.
Il y a sérieusement plus. L'avenue a été inondée de eaux de pluie et de ruissellement. J'habite le quartier depuis plus de 60 ans. C'est le pont Bongolo qui provoque la crue, puisqu'il est trop bas par rapport aux eaux qui les débordent. Si le pont Bongolo est modernisé, le problème des inondations seront réglées. Notre souci est que la rivière Kalam soit curée. Ces déchets qui sont accumulés en amont empêchent l'écoulement des eaux.
Mais le chef du quartier Yolo Nord 3 déplore les constructions anarchiques le long de la rivière Kalamu. Kabasse le Chikala.
Il n'y a pas de dégâts matériels enregistrés, non. Seulement, on a assisté à une crue forte de la rivière Kalam qui a quitté son lit. Et la partie comprise entre l'allée Kwango, l'avenue Bongolo, l'avenue Fimi a été envahie par les eaux jusqu'au soir. Et même à quelques mètres de chez moi ici, les eaux étaient arrivées. Là, le problème de la rivière Kalam, c'est que le Kalam a perdu son lit. Kalam a perdu son lit parce qu'il y a des immondices qu'on jette dans cette rivière-là. Vous pouvez aller au niveau du pont. Non, le pont n'a pas la possibilité de faire passer les eaux convenablement. Donc tout un tas d'immondices est enregistré à ce niveau-là, ce qui fait que la rivière ne sait pas contenir les eaux depuis quand il pleut. Mais il y a aussi le problème des constructions. Chacun a construit comme il le veut, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'inondations. Mais on n'a pas enregistré de perte en vie humaine.
Un autre habitant du quartier, Pambu Bambembi, estime que seule la réhabilitation du pont qui entraînerait à l'évacuation normale des eaux de ruissellement.
Le pont de Bongolo provoque notre malheur. S'il est réhabilité, ça va résoudre le problème de crue que nous vivons. Même après une petite pluie, ces ponts empêchent l'écoulement de l'eau. Le pont n'est plus à son niveau d'antan. En passant sur le pont, vous allez constater que l'eau stagne par manque d'espace. Si le niveau du pont augmente après sa réhabilitation, il y aura facilité l'écoulement d'eau.
Les quartiers situés en aval du pont Bongolo ne connaissent pas assez de problèmes de débordement de la rivière Kalamu. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, la face cachée de Boko Haram, l'insurrection meurtrière du groupe islamiste, se poursuit du Nigeria au pays voisin. De la secte islamiste non violente à ses débuts, à sa métamorphose en un mouvement violent, quel est l'envers du décor qui forme ses rangs? Comment fonctionne-t-il? En exclusivité des images obtenues par la VOA. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités. Votre santé, votre avenir vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition. Une édition qui sera consacrée à la santé mentale.
Dans l'opinion, les troubles de santé mentale se résument à la folie, mais nous verrons que ces troubles peuvent être divers.
Pour en parler, nous sommes allés en République démocratique du Congo. Nous avons interrogé le docteur Sombo Ayane Marie-Thérèse. Elle fera les diagnostics et nous livrera des conseils pratiques.
Deux autres experts seront aussi du rendez-vous. Le docteur Dieudonné Ngalamounoumé du CNPP de Kinshasa nous parlera de la prise en charge des malades. Notre expert est le docteur Idelfonse Mouteba, directeur du Programme national de santé mentale en RDC.
Votre santé, votre avenir, diffusé tous les samedis à 8h30, temps universel, et rediffusé tous les dimanches et mercredis à la même heure.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Dans bruit qu'a fait dans la cour, le paris discussion pété. Qui sont qui plus belle, qui sont qui plus grave. Gina, disons, pas plus belle. mais ça disons crap pour pire ça. À la fin même sans ravager, les déclarations qu'on champigra.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albutson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.